Donc, bonsoir et merci d'être venu. Je vais donc aujourd'hui aborder le dernier point ou dernier aspect de ma présentation. Et en reprenant un petit peu les notes de ce que je vous avais raconté la semaine dernière, il m'a semblé que c'était peut-être un peu utile, compte tenu des questions qui m'ont été posées également, de reprendre un peu le problème autrement, ne serait-ce que parce que parfois, redire les mêmes choses sous une autre forme permet de mieux saisir de quoi il est question. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur cette caractéristique ambivalente du contrat et des théories du contrat, et vous montrer finalement quelle est la pertinence de la critique que Peitman va adresser à cette conception contractualiste de la société politique moderne. Encore une fois, juste pour, en guise de préliminaire, ce qui m'importe, c'est de saisir comment une tradition politique aussi importante que celle du contrat, qui est encore aujourd'hui bien vivante, se constitue sur un certain nombre d'occultations, d'évictions, qui porte principalement sur la nature de la condition qui est faite aux femmes, au moins dans la définition de la société politique. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point préliminaire, peut-être important aussi, c'est évidemment de bien avoir à l'esprit que dans tout ce que je dis et toutes les théories que j'évoque, ne prétendent absolument pas proposer une analyse empirique, objective, scientifique du problème de la position des femmes dans la société au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Une perspective théorique qui entend légitimer un nouveau type de société politique et qui, pour ce faire, adopte un certain nombre de positions qui concernent à la fois les libertés individuelles, qui concernent le statut et la définition de l'individu, qui concernent le rapport entre la religion et la politique, et qui concernent aussi, et c'est ce point qui m'intéresse tout particulièrement ici, la condition des femmes. Donc, pour l'instant, ce que je voudrais arriver à bien vous faire comprendre, parce que c'est quand même là que se situe le point problématique qui va être discuté par Peitman, c'est ce paradoxe qui caractérise les problématiques du contrat. Je vous rappelle que on a cessé et on cesse encore aujourd'hui de reconnaître que dans la représentation moderne des sociétés politiques, les théoriciens du contrat social du XVIIe jusqu'au XVIIIe siècle inclus, sont considérés comme les grands fondateurs. Alors, ceci étant, cette dimension novatrice, émancipatrice des théories du contrat avait pour, principe de définir une réalité tout à fait nouvelle qui était celle de l'individu. L'individu comme doté de droits naturels, comme doté d'un accès égal, et je souligne ici le terme d'égalité, un accès égal à la société politique, et cette égalité de l'accès à la société politique, cette définition de l'individu, eh bien, constituait cette dimension émancipatrice, novatrice et même révolutionnaire de la pensée politique contractualiste. Révolutionnaire parce que, en quelque sorte, le politique se trouvait conçu sur la base d'un artifice, d'une institution qui était le fait des hommes eux-mêmes et non plus le fait de Dieu ou des pères au sens des patriarches. Donc le contrat portait en lui à la fois la remise en cause des conceptions théologiques, des conceptions patriarcalistes du pouvoir politique, et il impliquait de ce fait une émancipation radicale des hommes et de la politique. Celle-ci, la politique, devenait l'activité des hommes, devenait un objet que les êtres humains pouvaient prendre à bras-le-corps. C'est une autre manière de dire que les hommes pouvaient assumer leur destin politique et que ce destin n'était plus simplement dicté par en haut, par Dieu ou par les patriarches. D'une certaine manière, le contrat, toujours dans sa dimension révolutionnaire, supposait la disqualification de certains types d'arguments qui ont fait les beaux jours de l'Ancien Régime, notamment celui qui consiste à recourir à la nature pour expliquer et justifier, rendre compte des inégalités et des hiérarchies existantes. En clair, le contrat est révolutionnaire parce qu'il justifie son exigence d'égalité par le recours à une anthropologie nouvelle qui définit l'homme comme propriétaire de sa personne, comme titulaire de droits, parmi lesquels la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté d'association, etc., etc. En clair, cette anthropologie qui définit l'individu se construit et se structure autour de l'idée d'égalité. Alors, je rappelle simplement pour information que parler ici d'anthropologie, c'est simplement indiquer et désigner un discours sur la nature de l'homme. Hein. Vous avez la racine logos et anthropos, qui renvoie successivement au discours, hein, au savoir, à la connaissance, à la description d'un côté, et anthropos qui renvoie à l'homme. Simplement, cette anthropologie, elle n'est pas une anthropologie au sens où nous parlons aujourd'hui de l'anthropologie, hein, comme une discipline scientifique fondée sur la recherche et sur le terrain. L'anthropologie est un discours, hein, qu'on développe beaucoup au XVIIe et au XVIIIe siècle, et qui est une manière de narrer en quelque sorte la conception que l'on peut se faire de l'homme et de ses propriétés. Et bien dans cette anthropologie, tout à fait fondamentale au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui fait de l'égalité entre les hommes son principe, cette anthropologie décline aussi la valeur d'autonomie. Hein, qu'est-ce que c'est qu'un individu libre ? Et bien un individu libre, c'est un individu qui est autonome, et cette autonomie, elle doit se comprendre comme le refus de toute forme de dépendance. Autrement dit, le refus d'assigner en quelque sorte à quelque chose qui nous est extérieur le principe de nos mouvements et de nos actes. En d'autres termes, le refus d'une autorité que nous ne reconnaissons pas. Or, justement, ces valeurs d'autonomie, de liberté, d'égalité, qui sont les bases même du concept moderne d'individu, c'est ces valeurs qui vont lui permettre, qui vont le rendre apte, en quelque sorte, à contracter. C'est-à-dire que pour passer un contrat, je dois pouvoir exprimer ma volonté, et pour exprimer ma volonté, il faut que je ne sois pas assujetti à quelque source d'autorité extérieure que ce soit. Alors, je fais une petite parenthèse ici parce que c'est vraiment un point tout à fait fondamental qui pourrait là aussi donner lieu à une autre histoire, cette question de l'assujettissement ou cette question de l'autonomie. Il ne faut pas simplement la comprendre comme ce qui renvoie à l'exercice du pouvoir dans toute sa force, la soumission du sujet au monarque. Au XVIIIe siècle, dans le grand siècle des Lumières, l'une des sources de l'hétéronomie la plus forte, c'est la superstition, c'est-à-dire la dépendance à des croyances qui nous sont diffusées par des institutions que sont évidemment les institutions religieuses, l'Église, le sermon en chair, qui était un des modes de diffusion de la parole et de la parole idéologique, extrêmement important, hein, extrêmement important au XVIIIe siècle. D'ailleurs, Michelet, dans son Histoire de la Révolution française, dira notamment que le rôle contre-révolutionnaire de l'Église a joué énormément dans ces sphères que sont le confessionnal et évidemment le sermon prononcé en chair. Donc, c'est pour dire que la question de l'autonomie, c'est aussi la question de l'autonomie de la raison, de la capacité à être autonome dans sa manière de penser, hein, et de se démarquer ou de se déprendre de l'emprise des formes les plus adultérées de la superstition. Et de ce point de vue-là, je crois que les nouveaux supports ou les nouveaux médias pourraient tout à fait, là aussi, être comparés à ce qui a pu être dit au XVIIIe siècle de l'importance de ces relais de diffusion d'idées, d'idéologies, mais aussi de superstitions. Bref, voilà que le sujet, l'individu libre et autonome, pour pouvoir contracter, doit pouvoir se désassujettir, en quelque sorte, de toutes ces contraintes extérieures qui pèsent sur l'individu. Et c'est à ce moment-là que librement, il peut choisir de se soumettre au magistrat qu'il aura désigné. Ici, évidemment, ce choix consiste d'une autre manière à légitimer le souverain dans son exercice du pouvoir. Mais évidemment, sans cette liberté de choix, donc sans cette liberté de désigner celui qui va exercer la prérogative, eh bien, le souverain sera réputé illégitime. Donc pour toutes ces raisons, on voit bien que le contractualisme est une doctrine absolument novatrice, émancipatrice, et serais-je tenté d'ajouter que c'est très précisément pour ces raisons-là que le contractualisme est aussi critiqué. Et qu'il est, aux yeux du féminisme radical, je pense notamment, évidemment, puisque c'est d'elle dont je parle, Peitman, il est l'occasion d'être suspecté. Donc, c'est finalement sur cette tension entre la dimension émancipatrice de la théorie du contrat et, d'un autre côté, la dimension peut-être ultra-conservatrice de ces mêmes théories, lorsqu'on la considère, cette théorie du contrat, du point de vue de la condition qui est faite aux femmes, pour Peitman notamment, le contractualisme est digne d'être suspecté. Donc, en quoi cette doctrine est-elle susceptible d'être suspectée ? Tout simplement parce qu'elle est travaillée par une contradiction entre, d'un côté, tout ce que je viens de dire, qui caractérise donc le côté progressiste et éminemment révolutionnaire de ces représentations, et de l'autre côté, le fait que ces revendications universelles de liberté, d'égalité, d'autonomie, eh bien, ne concernent pas toute une partie de la société humaine. Et c'est très précisément dans les raisons et les motifs de ces exclusions que va se situer le problème. En fait, la revendication d'égalité et de propriété de soi, par exemple, elle se trouve largement compromise lorsqu'on va considérer la différence qui est établie par la plupart des théoriciens du contrat entre la société politique, où prévaut justement l'égalité, ou encore, sous ses formes déclinées, l'autonomie du sujet citoyen homme, et de l'autre côté, la société domestique, principalement réduite à la sphère familiale, qui est, elle, composée le plus souvent d'individus hommes, de femmes, d'enfants et de domestiques. Alors, je rappelle juste qu'au passage, évidemment, le modèle théorique qui sert de support à ces analyses au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'est le futur modèle de la société bourgeoise. Un couple, des enfants et éventuellement quelques domestiques. Or, ce qui tranche ici entre ces deux espaces, c'est que le premier espace de la société politique est véritablement égalitaire. Du moins dans son principe. Là où, dans le second espace, celui de la société domestique, eh bien celui-ci est posé comme naturellement inégalitaire. D'une certaine façon, la famille, et j'ai eu l'occasion de le montrer à propos de John Locke, est faite, d'un certain côté, d'individus qui sont achevés. Et les individus achevés, ce sont les hommes. Et les hommes sont généralement, d'ailleurs, les chefs de famille. De l'autre côté, il y a des individus qui sont encore inachevés, ce sont les enfants. Je vous rappelle que l'éducation, qui peut être conduite par le père et la mère, par ce qu'il appelle d'ailleurs dans une formulation extrêmement moderne, l'autorité parentale, eh bien l'éducation a la vocation justement à achever l'enfant comme individu, c'est-à-dire à le conduire progressivement à un usage autonome, on y revient, de sa raison, de sa capacité à raisonner. Et de ce point de vue-là, tant que l'enfant est en quelque sorte incapable de faire usage de sa raison, il est dépendant de ses parents, il est hétéronome. Mais une fois qu'il a accédé à cette autonomie, qu'il est capable de montrer qu'il fait usage de sa raison, alors naturellement, il s'émancipe de la tutelle paternelle. Alors ça, c'est un point important parce que, notamment dans le modèle patriarcal de Filmer, le fils est toujours sous la dépendance du père. Il ne s'émancipe jamais. Et d'une certaine manière, le fils est toujours à la merci d'un décret autoritaire du père, qui peut aller, comme dans l'Ancien Testament, jusqu'à la mort. Bref, il y a quand même chez Locke cette idée que l'accès à l'autonomie, une fois constituée la raison, est naturel. Ou du moins, elle ne fait pas de problème et l'enfant, devenu adulte, s'émancipe de la tutelle de son père. Et puis, à côté, il y a évidemment les domestiques. Alors les domestiques, eux, sont, pour ainsi dire, définitivement inclus dans l'espace de la communauté familiale parce que, de toute façon, ils sont conçus, ils sont réputés comme foncièrement hétéronomes. Et ils doivent leur condition, en quelque sorte, leur subsistance même, de l'autorité du chef de famille. Et à ce titre, ils n'ont aucune existence sociale en dehors de la communauté familiale. Alors, je fais encore une parenthèse parce qu'elle me semble intéressante à mentionner du point de vue historique. Il faut quand même savoir qu'au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, en France, lorsque les révolutionnaires vont commencer à discuter, notamment pour savoir qui sera réputé être citoyen et donc qui aura droit à exercer le vote et la représentation, la question des domestiques est réglée sans aucune discussion. Les domestiques ne sont pas des citoyens parce qu'ils n'ont aucune autonomie et qu'ils sont en quelque sorte inclus de manière organique dans la communauté familiale et donc à ce titre, ils n'ont absolument pas droit de vote. La question des domestiques est réglée en 30 secondes, la question des femmes aussi. Et pour exactement les mêmes raisons. Les femmes n'ont pas le droit de vote et tout simplement parce qu'elles ne sont pas citoyennes. Et elles ne sont pas citoyennes parce que tout simplement, elles n'ont pas d'individualité explicitée, délimitée, et qu'elles ne sont donc pas susceptibles d'autonomie. Hein? Donc ici, c'est pas simplement, les arguments théoriques hein, d'une doctrine, mais c'est aussi l'expression de l'ère du temps. Hein? Et j'aurais pu ajouter, je ne le fais pas, mais je le dis quand même, les membres de la cléricature. Tous ceux qui relèvent ou qui appartiennent à des communautés religieuses étaient disqualifiés du droit de vote parce que tout simplement, ils étaient intégrés de manière, dans une lecture tout à fait traditionnaliste, à la communauté à laquelle ils appartenaient. Et ils n'étaient donc pas des individualités achevées, établies, explicitées. Et donc, ils n'avaient pas à ce titre de possibilité d'exprimer leur volonté autonome. Hein. Donc, évidemment, si on considère ces différents éléments, on peut dire exactement la même chose des femmes. Les femmes, dans le modèle que j'évoque, elles sont, comme mères de famille, incluses, elles aussi, dans la communauté familiale, et elles font partie de cette communauté, et elles ne peuvent plus, à ce titre, prétendre à l'autonomie, puisqu'elles sont elles-mêmes, en quelque sorte, partie d'un ensemble qui les inclut et qui les dépasse. Autrement dit, ce ne sont pas des êtres inachevés, inaboutis comme les enfants, qui ne le sont que provisoirement. Hein. Mais ce sont des êtres qui sont naturellement voués aux tâches domestiques et qui sont naturellement assignés en quelque sorte à la structure communautaire et donc exclus par voie de conséquence, de la société civile et politique. On voit donc ici ces deux espaces, hein, et la liaison entre ces deux espaces, l'espace de la société politique, l'espace de la société domestique, la liaison entre les deux espaces, elle est établie par l'individu citoyen homme, qui revêt le double statut d'être tout à la fois citoyen dans la société politique, individu, autonome, libre, etc., et de l'autre côté, d'être mari, et père de famille. Donc on a bien deux espaces qui vont constituer les deux pôles de la tension que met au jour Carol Peitman et à partir de laquelle va se structurer toute la critique qu'elle va déployer dans la toute première partie de son ouvrage. Donc d'un côté il y a l'espace public, civil, politique, des individus citoyens hommes, et de l'autre côté, il y a l'espace domestique, privé, non politique en ce sens, des êtres naturellement distincts, naturellement inégaux et de statuts différents. Les enfants, les domestiques, les femmes, etc. En clair, dans cette problématique du contrat, il y a autour de l'opposition entre le public et le domestique une opposition entre l'égalité d'un côté et l'inégalité de l'autre côté. Une opposition entre une approche que j'ai dite constructiviste du politique, qui renvoie à l'égalité de l'espace, dans l'espace politique, et une approche qui demeure naturaliste, en un sens bien particulier, hein, patriarcaliste notamment, hein, et qui renvoie à l'espace domestique privé de la famille. Et c'est manifestement dans cette opposition, dans la tension entre ces deux pôles, que va se jouer la manière de comprendre la place qui est faite aux femmes dans la société moderne, au moins dans la doctrine politique du libéralisme classique. Autrement dit, à partir de là, vous voyez que l'objet ou l'objectif démonstratif de Peitman, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette contradiction, cette tension qui est véritablement disqualifiante, comment on peut d'un côté revendiquer l'égalité et de l'autre admettre l'inégalité. Donc comment cette tension qui est propre au contractualisme, eh bien, peut être justifiée? Comment peut-on rendre compte de cette tension entre ces deux lectures possibles de la place de l'égalité? D'un côté, elle y est au principe de la société politique, de l'autre, elle est rejetée au motif d'une conception communautaire et naturaliste de l'espace domestique. Donc, comme je pense que vous l'avez maintenant compris, on a affaire, à travers ces deux espaces, à deux manières de concevoir la société. D'un côté, la société politique repose sur une approche que j'ai qualifiée de constructiviste ou artificialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on décide, dans un acte volontaire, de construire la société politique. Et donc, ça veut dire que la société politique, elle est instituée, et parce qu'elle est instituée, on peut la modifier, on peut en changer la forme, on peut la transformer. Autrement dit, la conception de l'espace politique ressortit à une histoire. Elle est le fait d'une histoire, et le fait d'inscrire l'espace de la société politique dans une histoire revient à affirmer qu'on peut la changer. Ce qui veut dire que, notamment, elle n'est pas considérée comme une nature. Et c'est très précisément par le biais de cet artificialisme que les contractualistes ont pu disqualifier progressivement tous les vieux arguments d'Ancien Régime. De l'autre côté, la société domestique est définie, elle, par Locke notamment, dont j'ai beaucoup parlé, de façon naturaliste. Et plus précisément, le patriarcalisme est une forme de naturalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'espace domestique, les inégalités réelles entre les hommes et les femmes, entre les mères et les pères, entre les maris et les épouses, bref, sont fondées ou sont réputées être fondées sur des différences de nature. Il serait dans la nature de la femme d'être soumise, d'être mère et de se dévouer au bien commun de la famille. Donc, d'un côté, pour la société politique, il y a rejet du naturalisme. De l'autre côté, pour la société domestique, il y a maintien du naturalisme. Et ce maintien du naturalisme permet de justifier les inégalités faites entre les hommes et les femmes, entre les maris et les épouses, entre les pères et les mères. Donc, voilà, en quelque sorte, l'objet du délit. Pour Carol Peitman, ce sont ces traces de naturalisme dans la manière d'aborder l'espace de la société domestique qui signent la relativisation de l'exigence d'égalité, d'autonomie, de liberté, et qui fait que le contractualisme doit être suspecté. De quelle manière celui-ci peut être suspecté? Eh bien, notamment en répondant aux questions suivantes. Comment rendre compte de cette possible liaison entre l'égalitarisme politique d'un côté et l'inégalité domestique de l'autre? Ou, pour poser la question d'une autre façon, de façon plus lisible, pourquoi est-ce que la famille ne pourrait pas être elle aussi conçue comme une société fondée sur un principe d'égalité? Au fond, y a-t-il des raisons pertinentes pour admettre que la société familiale se soutienne naturellement d'inégalité? Mais il me semble que cette question, qui est une question qui, sous des dehors un peu ordinaires, est assez radicale, il me semble que cette question peut encore être beaucoup plus accentuée. Et c'est ce que je vais essayer d'indiquer désormais. Vous vous souvenez que j'avais montré chez Locke donc la possibilité d'une double lecture du lien social, lien artificiel pour la politique, lien naturaliste pour la société. Et nous avions alors constaté qu'il existait, à propos du contrat conjugal, deux moments. Le premier moment, où l'homme et la femme sont des individus égaux, sont des individus en position d'égalité qui conviennent, dans une certaine égalité, de s'unir et qui se choisissent réciproquement et qui disposent réciproquement d'un droit à accéder au corps de l'autre. Ça, c'était le premier moment dans le contrat conjugal où la femme, en tant qu'elle est susceptible de contracter, revêtait tous les attributs de l'individu autonome, libre et égal. Mais nous avions vu également qu'il existait un second moment où cette égalité disparaissait et que ce moment, c'était celui de l'inclusion de la femme dans la communauté familiale. Du coup, la femme cessait d'être femme pour devenir mère. Je rappelle que la finalité du contrat d'association qu'est l'union conjugale, c'est la reproduction. C'est d'assurer la descendance, c'est de conduire au renouvellement des générations. Dès lors, la femme comme épouse devient mère, et comme mère, elle cesse d'être individu égal. Autrement dit, la femme, dans ces deux moments, revêt successivement et de manière contradictoire deux statuts. Celui d'individu égal, le moment du contrat, et celui de membre de la famille assujetti à l'autorité du mari. Alors vous comprenez bien que ces deux approches, nous dit Carol Pateman, sont difficiles à rendre compatibles. Et pourtant, John Locke les admet. Il les admet tous les deux, ces moments. Et on pourrait même, je ne le ferai pas, ça n'est pas ici mon propos, mais on pourrait même montrer que c'est aussi le cas chez Rousseau. Donc, d'un côté, on évince toute une partie de l'humanité de la revendication d'égalité, hein, et d'autre part, on va ainsi rendre compatibles deux espaces qui fonctionnent de manière totalement différente. Donc, ces tensions montrent à l'évidence que la philosophie du contrat n'est pas favorable à la prise en compte d'une égalité réelle des femmes et des hommes. Simplement, ce constat, il faut essayer de le justifier. Et je vous rappelle que pour justifier cette tension, Carol Pateman fait un détour par un autre grand philosophe, qui est peut-être un des premiers modernes contractualistes, qui est Hobbes. Pour Pateman, l'explication à cette contradiction réside dans le passage de Hobbes à Locke. Ce passage est très précisément ce qui va lui permettre de donner une hypothèse permettant de comprendre comment Locke peut tenir deux discours aussi contradictoires. Alors je voudrais ici revenir un petit peu, de façon un peu plus détaillée, sur ce que j'ai dit à propos de Hobbes la semaine dernière. Parce que c'est vraiment ce moment-là de l'histoire du contractualisme qu'il faut comprendre pour envisager ensuite la façon dont des auteurs comme Locke ou même Rousseau vont pouvoir tenir ensemble ces discours aussi éloignés l'un de l'autre. Je rappelle que Hobbes est témoin des guerres civiles, qu'il écrit son grand livre Le Léviathan, qui paraît en France d'ailleurs en 1651, et que son obsession théorique et pratique, c'est évidemment d'essayer d'inventer un système politique qui évite que les hommes se déchirent entre eux dans des guerres civiles. Et cette manière de concevoir ce nouvel ordre politique repose fondamentalement sur l'érection du souverain titulaire d'une puissance définitive qui serait seule à même de garantir la sécurité de tous les sujets. Voilà pour le cadre général, j'en reviens maintenant à ma question. Vous vous souvenez, je l'avais dit, mais peut-être faut-il que je le rappelle, que pour Thomas Hobbes, il n'y a pas de différence à faire de nature entre la manière dont le sujet est assujetti à son souverain, que cet assujettissement repose sur le contrat volontaire, dans le cas de la société de contrat, ou que cet assujettissement repose sur le droit de conquête. Alors je reprécise ce point parce qu'il est très important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour Hobbes, l'étendue de la prérogative du souverain est indépendante de la nature de son accession au pouvoir. Ce qui veut donc dire que vous avez deux manières fondamentales aux yeux de Hobbes d'accéder au pouvoir en tant que souverain. Soit vous êtes désigné par contrat, et c'est toute la théorie de la constitution du souverain qui est développée dans le Léviathan, et la légitimité de votre pouvoir, vous la tenez de cette délégation par contrat, mais une fois que vous avez ce pouvoir, il est en quelque sorte absolu. Il est absolu et il est nécessairement légitime puisque c'est le souverain qui a été légitimement désigné, qui le détient et qui en fait usage. Il y a une deuxième manière d'accéder à ce pouvoir souverain, c'est la guerre et le droit de conquête. Pour les individus qui sont assujettis par conquête, eh bien on pourrait parler d'une sorte de contrat indépendant de leur volonté, où le souverain s'impose à eux et s'impose ou impose en quelque sorte une sorte de garantie de sécurité. Mais là aussi, cette forme d'assujettissement est adossée à un exercice absolu du pouvoir. Donc du point de vue des effets, que le souverain soit constitué par contrat ou par conquête, il n'y a pas de différence pour l'individu qui est assujetti. Que cet assujettissement soit délibérément recherché ou imposé, de fait, il n'y a pas de distinction. La soumission est toujours aussi étendue du point de vue de sa puissance. Autrement dit, ça c'est le premier point. Deuxième point important, et ça c'est aussi une différence tout à fait fondamentale avec Locke, c'est que pour Hobbes, toutes les relations sont politiques. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas lieu de faire des distinguos entre des relations qui seraient naturelles, notamment les relations sexuelles ou les relations entre hommes et femmes, et des relations qui seraient artificielles, notamment les relations politiques. Dans l'état de nature, nous dit Hobbes, toutes les relations sont politiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ceux qui relient deux individus, parmi ces relations, les relations sexuelles, mais pas simplement, ce qui relie deux individus, eh bien, est le fait d'un artifice. la forme de l'échange est toujours tributaire d'une convention. Cette convention, elle est peut-être instable dans l'état de nature, puisque justement, par définition, dans l'état de nature, règne, comme vous le savez, je l'ai déjà dit, une sorte de défiance généralisée qui fait que les individus sont dans des rapports d'hostilité universelle. Malgré tout, il faut qu'il y ait une forme d'accord pour que prévalent des échanges, qu'ils soient de solidarité, des échanges de relations sexuelles ou autres. Donc, l'échange dans sa forme est toujours politique. Ce qui veut donc dire que la domination n'est par principe jamais naturelle, mais toujours artificielle. Ou, dans le vocabulaire de Hobbes, c'est la même chose, politique. Il n'y a pas de domination naturelle qui tienne. Donc, il n'y a pas de sens à affirmer, même dans l'état de nature, que les hommes puissent dominer naturellement les femmes. Et notamment parce qu'ils seraient les plus forts. Comme je crois l'avoir dit, dans l'état de nature, la force et la ruse sont à peu près également distribuées. Et si d'aventure vous êtes soumis à la force un jour, vous pouvez par la ruse ou par les circonstances renverser ce rapport de force. Et cette instabilité essentielle qui définit l'état de nature prévaut dans les relations entre les hommes et les femmes, comme dans les relations entre les hommes, etc. etc. Il n'y a donc pas d'homme naturellement et définitivement plus fort que les femmes, et inversement, et un rapport imposé par la force peut être évidemment renversé par la force et la violence. Alors, évidemment, tout ceci veut dire une chose, et c'est en ceci que il me semble que la lecture de Peitman de cet auteur est tout à fait passionnante, c'est que la domination masculine, eh bien, ne peut pas être fondée sur un caractère de nature. Elle existe, et de ce point de vue-là, non seulement Hobbes la constate, mais l'accepte sans aucun problème, mais cette existence ne peut pas être justifiée par un argument de type naturaliste. Et il me semble qu'il y a ici quelque chose de tout à fait essentiel qu'on ne trouve pas dans la lecture lockéenne et qui fait de Hobbes, au-delà de son réalisme et de son cynisme parfois insupportable, un penseur de la modernité. Je rappelle également que pour qu'il puisse y avoir un échange, y compris sexuel, entre un homme et une femme, il faut, Hobbes en tout cas l'envisage ainsi, deux cas de figure. Soit il y a un accord, l'expression même instable d'une volonté entre un homme et une femme, soit, deuxième cas, il y a un rapport de force qui va s'imposer momentanément. L'homme peut, au gré des circonstances ou d'un usage rusé de sa force, parvenir à ses fins, mais il peut se retrouver très vite renversé par le changement des circonstances. Quoi qu'il en soit, ce qui caractérise ces deux types de relations, l'accord ou le rapport de force, dans l'état de nature, ces relations sont éminemment instables. Tout simplement parce que dans l'état de nature, l'accord peut être à tout moment rompu. Je peux très bien décider demain de ne plus être d'accord pour échanger avec vous. Et comme il n'y a pas de loi, et que c'est simplement la ruse ou la volonté de chacun qui prévaut, eh bien, rien ne m'interdit, sauf si vous recourez à la force. Mais si vous recourez à la force, je pourrais moi aussi, d'une autre manière, recourir à la force. Rien ne m'interdira d'abandonner ce que j'avais décidé la veille et d'y revenir quelque temps plus tard. Quoi qu'il en soit, on voit bien que dans ces deux cas, les relations d'échange entre les hommes et les femmes dans l'état de nature se caractérisent par une instabilité essentielle qui est le propre de toutes les relations, et de ce point de vue-là, Hobbes ne fait aucune différence de toutes les relations qui peuvent s'instaurer entre les individus dans l'état de nature. Il y avait un dernier point qui fait transition avec la suite, que j'avais eu rapidement le temps d'évoquer et que je rappelle, c'est que non seulement Hobbes se désolidarise complètement de les thèses de Filmer sur la question du pouvoir patriarcal, la preuve en est tout ce que je viens de dire, mais plus encore, il va plus loin puisqu'il soutient une thèse quasiment opposée qui consiste à dire que s'il y avait dans l'état de nature un pouvoir entre guillemets fondé sur la filiation, ça serait plutôt du côté de la mère qu'il faudrait aller chercher. Au fond, s'il existait un droit entre guillemets naturel de prérogative, ça serait plutôt du côté maternel et non pas du côté paternel qu'il faudrait le chercher. Au fond, que se passe-t-il? Eh bien, tout simplement, lorsque la mère décide de nourrir son enfant, de ne pas l'abandonner et de ne plus l'exposer au risque de la mort violente, elle devient de ce fait l'équivalent du souverain qui décide de protéger ses sujets. Autrement dit, le raisonnement ici est assez subtil, c'est que Hobbes construit une analogie, attention, ça ne veut pas dire que c'est la même chose, hein, une analogie entre ce que pourrait être le droit maternel ou le pouvoir maternel que la mère pourrait avoir sur l'enfant qu'elle protège, qu'elle éduque ou qu'elle défend, et le pouvoir du souverain qu'il aurait sur ses sujets en accédant à la pleine souveraineté. Au fond, dans le cas de l'enfant, ce qui se joue entre l'enfant et la mère, c'est un échange, certes unilatéral, puisque l'enfant n'a pas les moyens de contracter, mais c'est quand même un échange de protection contre la vie. Et là encore, c'est cette analogie, mais qui est une analogie strictement fictive, hein, qui permet de montrer que même dans la relation maternelle, il s'agit d'une convention. Alors certes, cette convention, elle est instable, puisqu'on est dans l'état de nature, mais c'est la mère qui décide, finalement, de protéger et de ne plus exposer son enfant et de le nourrir. Donc ce qui est remarquable ici, c'est que pour Hobbes, dans l'état de nature, il faut traiter exactement de la même manière toutes ces relations. Et ces relations sont dites politiques en ce sens. En ce sens qu'elles supposent un acte, l'expression d'une convention, même si cet acte est évidemment incertain dans sa réalisation, puisqu'on est dans un état de nature. Dans le cas de l'enfant, tout comme dans le cas du souverain, on peut donc admettre que la décision unilatérale de la mère de nourrir son enfant, dans un contexte de défiance généralisée, d'hostilité universelle, est exactement équivalente à la décision du souverain qui, une fois constitué ou une fois conquis le territoire, décide de protéger ses sujets. La mère protège son enfant, le nourrit, assure sa sûreté, tout comme le souverain. On peut donc admettre qu'il y a une sorte de contrat, une sorte d'échange particulier, certes, qui fait que cette décision prend toutes les formes d'un artifice, d'une convention. Et de ce point de vue-là, vous voyez bien comment, et c'est ce qui fait le génie spéculatif de cet auteur, la relation la plus naturelle qui soit se trouve en quelque sorte traduite dans les termes d'une convention et d'un artifice. Il y a donc une sorte de pouvoir politique de la mère sur son enfant. Et ce pouvoir politique découle du fait que dans l'état hobbésien, il n'existe aucune loi sur le mariage. Donc, voilà où nous en sommes, et voilà déjà un premier état du problème qui me semble relativement explicite et qui me semble aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus radical que celui de Locke. D'une certaine manière, nous sommes dans un état de nature, et toutes les relations qui existent sont certes instables, certes vouées à être interrompues, mais toutes, elles sont politiques. Elles sont l'expression même problématique de convention ou de volonté. Alors on sait que dans l'état de nature, les contrats ne peuvent pas être accomplis parce que tout simplement, le contrat suppose un état de stabilité. Hein, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on va passer de l'état de nature à l'état de société. Je laisse pour l'instant ce point de côté. La question qui va se poser désormais est celle-ci. On ne peut pas faire de Hobbes un défenseur du patriarcat. Je crois que tout ce que je vous ai raconté là le montre. Alors on peut se demander comment est-ce que les pères ont acquis leur pouvoir dans l'état de nature, sachant justement que tout l'effort déployé par Hobbes a été celui de montrer que seul le pouvoir politique qui existe dans l'état de nature est dit maternel. Dans l'état de nature, il n'y a donc pas d'épouse. Le mariage, par conséquent, entre mari et femme n'existe pas. Et il n'apparaît que dans la société civile. Et il suppose un droit matrimonial. Et là, soyons clairs, n'ayez aucun espoir infondé. Hobbes reconnaît dans l'état civil que les femmes doivent être soumises aux hommes. Hein, et que cette soumission, elle est même plus assurée et assumée par le contrat. Hein. Donc, comment et à quel moment se fait cette étape tout à fait décisive qui réalise l'assujettissement des femmes? Comment est-on passé d'un état où les femmes sont l'égale des hommes, dans l'état de nature, à celui de la société civile où les femmes sont naturellement assujetties aux hommes? Comment peut-on donc rendre compte de ce renversement dans la situation des femmes qui font d'elles des sujettes? Alors pour le rappeler, pour l'expliquer, Peitman rappelle deux principes. Le premier, c'est que les maris sont les maîtres dans l'état civil parce que ce sont les hommes, les pères, si vous préférez, qui ont conclu le contrat social originel. Il n'y avait que des hommes. Alors ces hommes s'assurent, nous dit encore Peitman à propos de Hobbes, en contractant, que le droit politique patriarcal garantit leur pouvoir dans la société civile comme dans la société domestique. Deuxième principe, comment est établie l'exclusion des femmes de la participation du contrat social? Je rappelle que ces femmes, dans l'état de nature, sont libres et égales aux hommes. Conséquence, si on lit précisément ces deux principes, c'est qu'il faut bien que les femmes soient exclues du contrat, car rationnellement, on peut tout à fait admettre qu'aucune femme n'accepterait de contracter pour revendiquer sa propre infériorité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment où le contrat social est conclu, toutes les femmes ont été conquises par les hommes. Toutes les femmes sont déjà sujettes ou servantes. La question qui va se poser est celle-ci. Comment les hommes ont-ils pu être capables de conquérir les femmes dans la condition naturelle, dans l'état de nature? Alors les éléments de réponse sont ceux-ci. Premièrement, et c'est l'hypothèse fondamentale que développe Carol Peitman en lisant Hobbes, pour Hobbes, lorsqu'une femme devient mère et qu'elle décide d'élever son enfant, sa position quasi-ontologique change. Elle a désormais un désavantage par rapport aux hommes et un désavantage permanent, puisqu'elle doit aussi défendre son enfant. Autrement dit, Le désavantage, c'est qu'elle est deux. Ou plus exactement, qu'elle est un plus un. Ce qui revient à dire, deuxièmement, que l'homme va se trouver dans une situation où il est désormais capable de vaincre la femme qu'il devait initialement traiter en égale. Et c'est à ce moment-là qu'il va imposer une structure qu'on va appeler la famille. Dans l'état de nature, toutes les femmes sont susceptibles de devenir des servantes et toutes les femmes sont alors exclues du pacte originel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les femmes, pour Ops, vont se trouver également exclues de la possibilité de devenir des individus civils. Aucune femme ne sera un sujet libre, toutes seront des servantes d'un type particulier. En quoi consiste la famille ici ? Dans ce moment où, fragilisée par le fait qu'elle est 1 plus 1, 1 plus son enfant, l'homme va pouvoir lui imposer une protection et l'inclure en quelque sorte dans une unité plus large qui va contenir le père, la mère et l'enfant. Alors ce qui est intéressant dans cette hypothèse, je ne suis pas en train de dire, et ça c'est très important que vous l'ayez en tête, je ne suis pas du tout en train de dire que cette hypothèse est l'hypothèse anthropologique vraie. Il ne faut pas ici espérer trouver dans ces considérations hobbésiennes une quelconque hypothèse historique sur le moment où les femmes auraient été définitivement assujetties aux hommes. C'est une hypothèse fictive, mais qui a le mérite d'une profonde cohérence et qui permet de montrer comment, par le raisonnement déductif, Hobbes fait l'hypothèse pour pouvoir tenir une position cohérente que les femmes ont dû être assujetties avant le moment du contrat social. Elles étaient déjà assujetties avant le moment du contrat social et elles restent et elles demeurent assujetties après le moment du contrat social. Ce qui veut donc dire que là où demeure une tension, pour ne pas dire une contradiction dans la problématique de Locke, il y a une profonde cohérence dans la problématique de Hobbes, puisque d'une certaine façon, il part de l'idée qu'il y a un moment où les femmes sont en position d'être assujetties, qu'elles le sont, et que le problème est réglé avant même l'accès à l'état de société politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence et comme hypothèse interprétative de tout ce que je viens de vous dire? C'est un petit peu à ceci que je voudrais maintenant consacrer mes derniers propos, donc dans une sorte de vaste synthèse un peu conclusive. La première chose que l'on peut dire, c'est que l'intérêt de la lecture que nous propose Peitman de Hobbes, c'est qu'elle permet de montrer tous les points aveugles du contractualisme. Notamment, le fait qu'il a, le contractualisme, cette tendance à pactiser avec le patriarcat et à admettre un peu facilement le caractère naturel des inégalités entre les hommes et les femmes dans la société domestique. D'une certaine façon, le détour par Hobbes nous permet de révéler que ce qui est imputé à la nature n'est pas du tout le fait de la nature, mais bien le fait de circonstances particulières et de quelque chose qui a été institué par les hommes. Ce qui veut donc dire que l'inclusion de la femme et de son enfant dans l'unité familiale est quelque chose qui relève de l'instauration d'un rapport politique, qui est le fait de la domination des hommes. Mais ceci n'est pas du tout, en tant que tel, un fait de nature. C'est quelque chose qui apparaît à un moment donné dans la reconstruction hypothétique de l'état de nature et qui justifie la position radicale de Hobbes, qui veut que les femmes ne sont pas naturellement soumises aux hommes. Elles le deviennent, mais elles le deviennent pour des raisons que l'on peut reconstruire hypothétiquement. C'est donc par l'établissement, et ça sera le deuxième point de synthèse qui me semble intéressant, c'est donc reconnaître que c'est par l'établissement d'un rapport de force nouveau que la situation de la femme et de son enfant conduisent les premières, les femmes, à être soumises contre leur volonté aux hommes. Ce qui veut dire, et ça c'est un autre résultat tout à fait passionnant, que la constitution de la famille comme unité sociale élémentaire se fonde non pas sur la convention, mais sur un rapport de force, qui est un rapport de domination, et qui va modifier considérablement le statut de la mère, en la rendant évidemment servante et soumise. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre et de dire encore une fois que, sur le plan théorique, la famille n'est donc pas un fait de nature. La famille, c'est un artifice qui est construit sur la base d'un coup de force. Un coup de force qui, si on suit l'hypothèse de Hobbes, va consacrer la prééminence des hommes sur les femmes et les enfants. Et c'est dans ce moment de constitution de la famille qui apparaît dès l'état de nature que ce met en place une double relation d'inclusion et d'exclusion, inclusion de la mère dans la famille, exclusion de la femme de la société politique. Voilà comment ici on peut proposer une explication parmi d'autres, il en est bien d'autres, mais c'est celle-ci que j'ai choisi de vous présenter, une explication parmi d'autres de cette tension qui, chez Hobbes, est interne à l'état de nature et non pas au moment du contrat. Alors, on voit bien ici, et c'est une autre des qualités du travail de Peitman, que le fait de repartir de Hobbes pour tenter de comprendre que la domination naturelle des hommes sur les femmes est un argument totalement irrecevable, eh bien, ce départ de Hobbes, c'est quelque chose de tout à fait important. De Hobbes à Locke, il y a quelque chose qui se trouve occulté dans le raisonnement politique et qui va autoriser le maintien d'une condition assujettie des femmes. En effet, vous le savez, à en croire Locke, la famille est un résidu communautaire. Et c'est par des arguments de type patriarcaliste qu'il la justifie. Il va même plus loin, puisqu'il va s'appuyer sur les autorités de l'écriture sainte, des textes vétérotestamentaires, qui ne manquent pas de détails sur la condition soumise de la femme et sur la nécessité de maintenir la femme dans une condition soumise, pour justifier que dans l'espace de la société domestique, la femme y soit ainsi maintenue. Le détour par Hobbes présente ce mérite tout à fait considérable de montrer que, oui, la femme est soumise, non, cette soumission n'est pas du tout un fait de nature. C'est un fait de société, c'est une institution, c'est un artifice, c'est une relation politique, appelez ça comme vous voulez, et à ce titre, elle peut être tout à fait déconstruite. Ce que nous montre finalement Hobbes, par son raisonnement, Ce qu'il nous permet de comprendre, c'est que la domination masculine est un artifice, le fait d'une relation, et que ça n'a pas toujours été le cas. Pour le dire encore d'une autre manière, l'intérêt ici de la comparaison et du passage de Hobbes à Locke, c'est de comprendre que la soumission ou la question du statut de la femme dans la société domestique eh bien, est quelque chose qui constitue le discours caché qui va tramer en quelque sorte toute l'histoire du contractualisme et toute l'histoire de la pensée politique moderne. Et que son occultation, sa mise à l'écart, se fait très précisément dans ce passage de Hobbes à Locke. Vous vous souvenez, au tout début de ce cours, j'avais évoqué Pierre Bourdieu et la domination masculine. Pierre Bourdieu, je disais que notamment une des difficultés de l'analyse de la domination masculine, selon Pierre Bourdieu, c'était d'arriver à déconstruire les catégories avec lesquelles on pense la domination masculine pour permettre au regard critique de faire apparaître que ce qui est posé comme nature par la société, par les représentations communes, ordinaires, celles qui sont au fondement de toutes nos relations humaines, eh bien que ces relations, loin d'être naturelles, sont en fait artificielles, sont le fait d'une histoire, sont le fait de quelque chose qui s'inscrit dans une temporalité qu'on peut modifier, qu'on peut ou qu'on peut vouloir modifier. Il me semble ici que ce qui est remarquable dans l'ouvrage de Peitman et ce qui rend ce travail aussi important pour le féminisme contemporain, c'est qu'elle a contribué justement à lever ce voile du naturalisme sur quelque chose qui est, de part en part, un artifice construit, quelque chose qui s'inscrit dans une histoire. D'une certaine façon, c'est dommage que les marxistes ne soient pas là, je pense que ça leur aurait fait plaisir. Le geste critique de Carol Peitman est assez proche du geste critique que pouvait avoir Marx lorsqu'il faisait la critique de l'économie politique bourgeoise et que justement il s'attachait à montrer que les catégories entre guillemets universelles qui étaient utilisées par l'économie politique classique eh bien, étaient des catégories non pas universelles, mais très particulières, marquées historiquement dans une époque, dans un temps, dans un lieu. Mais il me semble qu'ici, le geste critique de Peitman est exactement de même nature. À sa manière, ce qu'elle essaye de montrer, alors je vous ai pris là un exemple, mais on pourrait le développer sur beaucoup d'autres exemples, parce que le livre est tout à fait considérable dans son ampleur et dans sa largeur de point de vue. Eh bien, Peitman fait exactement la même chose. Elle dit la possibilité de penser au moins théoriquement une requalification de la condition féminine suppose que l'on fasse ce premier travail critique qui est de débusquer derrière la nature tous les artifices de la politique et de l'histoire. Voilà ce qui me semble-t-il, à mes yeux, justifié que je passe autant de temps avec vous sur un texte aussi important. Je vous remercie.